Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui.
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, eh ben cette année, il a beaucoup plu. Hein, et puis, on est en avril. Quand on dit en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Il a continué à pleuvoir beaucoup, même dans la région de Marrakech. Et pour nous, tant mieux. Alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qu'il en advient de cette eau, finalement? Où en est-on? On avait parlé la dernière fois, lors de la journée mondiale de l'eau, des puits, de l'utilisation de ces eaux, des barrages. Eh bien, on refait un point aujourd'hui, parce que c'est important. Il est 10h12, vous êtes sur Atlantique. Voici vos experts.
Les experts atlantiques.
Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. Et c'est vrai que j'aimerais juste avant qu'on commence cette émission vous remercier pour toutes les réactions qu'on a eues hier dans l'émission. Vous avez dit qu'on était énervé. On a fini l'émission en disant y en a marre. J'espère que bon, le sujet d'aujourd'hui, ça sera pas ça parce que on va essayer de comprendre quoique, hein, vous allez nous expliquer hein, quand même, parce que c'était aussi la psychologie de l'eau dont on avait parlé la dernière fois. Les gens voient qu'il pleut, on est quand même un pays qui est dans un climat semi-aride, nous on est dépendant de l'eau, et c'est pas parce qu'il a plu beaucoup qu'il faut qu'on gaspille, qu'il faut qu'on utilise ça comme si c'était inépuisable. Ça aussi c'est important, et donc ça nous permettra de voir dans quel état sont nos nappes phréatiques, où en est la police de l'eau, parce qu'il y avait cette police de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens dans des régions qui creusent des puits un peu n'importe comment. Est-ce que c'est contrôlé? Bref, on parle de tout ça aujourd'hui. 05 22 95 36 70 ou 80. Avec moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir d'avoir deux dames sur le plateau. C'est rare d'avoir deux expertes à chaque fois et je le souligne parce qu'on essaye tout le temps d'avoir des expertes sur le plateau. Elles ont fait le déplacement, elles sont avec nous. Samira El Hawat, vous êtes directrice de l'agence du bassin hydraulique du Sebou. Comment ça va?
Oui, ça va bien, merci.
Tout va bien?
Tout très bien.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ah bah oui, voilà. On est bien,
Vous allez nous confirmer, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit des chiffres, et puis ça nous permet de mieux comprendre.
Ce que je peux garantir, c'est que cette fois-ci, on va terminer, inch'Allah, l'émission avec une note positive.
Positive? Bon bah, tant mieux, voilà. Ok, on va pas noyer le poisson, comme on dit, avec toute l'eau qu'on a en ce moment. Docteur Nazia Chkloni, vous êtes chef de la division gestion du domaine public hydraulique au sein du secrétariat d'État
chargé de l'eau.
Mais parlez devant le micro, hein. Vous êtes à la radio, n'hésitez pas à parler, hein, sinon on ne vous entend pas.
Merci pour cette invitation et d'avoir consacré cette émission.
Oh, mais vous inquiétez pas, on est content de vous avoir.
Un sujet qui est de l'actualité.
C'est vrai que l'eau, quand même, on a tendance à oublier que dans quel pays nous sommes, dans quel climat nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a des comportements en termes de gaspillage. On y reviendra, mais c'est important de souligner que le comportement est important, mais qu'on va rappeler des chiffres qui sont que la majeure partie de l'eau utilisée, c'est l'agriculture qui l'utilise. Ensuite, il y a l'industrie, même si nous ne sommes pas un pays industrialisé, mais nous sommes en phase hein, d'émergence industrielle, c'est en tout cas tout ce qu'on nous souhaite. Et après passe la consommation domestique. Donc c'est vrai que faut quand même relativiser et dire où est-ce qu'on en est. Moi, je vais juste vous poser une question à vous deux, Madame Hawad, vous êtes directrice de l'agence du bassin hydraulique du Sebou. Donc, on en est où là? Est-ce que on a vu les pluies qui sont tombées? Elles ont été tardives. On a beaucoup attendu. On s'est fait beaucoup de soucis, comme d'habitude. On a tellement l'habitude finalement hein, de se faire du souci et d'attendre que les pluies arrivent. Est-ce que c'est une bonne année concrètement? Je parle pas d'agriculture. Je parle de l'eau et des ressources en eau.
D'accord, donc effectivement cette année, on a un petit peu commencé une année avec un peu de pessimisme au début, surtout qu'on a eu quand même 3 années de déficit pluviométrique consécutif, et donc on a eu un cumul du déficit en matière d'apport en ressources en eau.
Quand même, c'est important de le souligner parce que la perception entre ce que les gens perçoivent, on se dit pleut quand même pas mal, on a eu 3 années de déficit.
Oui, c'est 3 années successives, donc c'était 2015, 2016 et 2017. Mmh. Et donc déjà fin 2017, on était dans une situation assez, je dirais, critique, parce que le déficit pluviométrique, il a été, je dirais, conjugué à une température également excessive et exceptionnelle.
Elle était extrêmement chaud.
Voilà, donc les besoins, avec la température, les besoins augmentent de tout secteur, y compris l'agriculture, l'eau potable, etc. Et donc, on a commencé avec une année plus ou moins, je dirais, un départ assez difficile. Heureusement, donc on a eu quand même une pluviométrie, mais assez tardivement. Donc ça a commencé à pleuvoir, je dirais, concrètement jusqu'au février, mars, avril. Donc c'était quand même une année hydrologique assez tardive. Mais heureusement, ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui, donc ça dépasse, je dirais, les apports moyens de la même période de chaque année. Et donc c'est déjà, on est en situation actuellement à l'aise, en particulier pour les zones, je dirais, centre et nord du Maroc. Les zones sud, heureusement, ces derniers jours, donc la pluviométrie, elle a touché ces régions sud, et donc ça
va... C'est souvent celles qui sont malheureusement... c'est le climat, et c'est comme ça.
C'est la topographie, c'est la géologie, c'est la géographie. Donc au Maroc, on a quand même une répartition irrégulière, inégale en matière de pluviométrie entre le nord et le sud. Et donc, ce qui se traduit en matière de répartition de ressources en eau. Donc on a quand même, je dirais, un creux entre les zones nord et les zones sud du Maroc en matière de disponibilité de ressources en eau.
Si je vais du côté de Khnifra et du côté d'Ifrane, vous allez me dire que tous les lacs sont remplis et pleins ?
Oui, actuellement, oui. Khnifra, le Moyen Atlas, c'est le château d'eau du Maroc. La plupart des grands fleuves du Maroc, donc ça prend naissance au Moyen Atlas, notamment le Sboul, le Milouya, le Marbé, etc. Donc là, c'est en plus de la pluviométrie cette année, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a eu de la neige.
Oui.
Et la neige, c'est très important pour les cours d'eau.
Ça permet tout au long de l'année
d'avoir une réserve. Pour les ressources souterraines. Ouais. Et donc là, avec la fonte des neiges, donc il y a l'alimentation naturelle des nappes. Et donc il y a l'amélioration des conditions des sources, des cours d'eau. Et donc là, c'est très important, essentiellement pour tout ce qui est eau potable rurale, qui en grande partie s'appuie sur les ressources en eau souterraines locales.
Alors, docteur Chkroni, vous êtes chef de la division gestion.
Oui.
Pardon ?
Oui.
Vous êtes docteur, je vois bien. Non, oui.
Oui, madame Chkroni. Oui.
Non ? Vous êtes pas docteur ?
Oui, mais bon.
Bah, je vous donne vos titres, là. Pourquoi je vais pas dire docteur ? Il y a un D. Moi, je lis docteur. Alors, vous êtes chef de la division gestion du domaine public hydraulique.
Oui.
Concrètement, vous faites quoi ? C'est vrai que c'est important. Vous gérez le domaine public hydraulique. C'est extrêmement large. C'est quoi le domaine public hydraulique ?
D'abord, permettez-moi de faire un rappel du cadre juridique et institutionnel de la gestion des ressources en eau, parce qu'on a connu une réforme de cette ce cadre en 2016 avec la promulgation de la loi 3615 sur l'eau. Cette loi, on parle de la police de l'eau, et cette loi, c'était l'occasion de renforcer les missions, le rôle.
Alors on va y arriver, justement.
Et pour ce qui est de domaine public hydraulique, il est défini dans la loi par tout ce qui est cours d'eau. Il y a un domaine qui est naturel, le cours d'eau étant source, lac, etc. Et il y a un domaine qui est artificiel, qui est les barrages, ouvrages, installations hydrauliques, en fait toutes
les dayas
aussi font partie de domaine public.
Je vous pose la question parce que ça aussi la préservation des dayas.
Alors le domaine, c'est l'eau, mais aussi la terre qui contient cette eau. On ne peut pas les dissocier. Les deux constituent ce domaine public hydraulique. Pour la gestion, elle est confiée aux agences de bassin en partie. Tout ce qui est autorisation, concession, c'est l'agence de bassin qui délivre ses autorisations d'utilisation et d'exploitation de ce domaine, mais reste que certaines procédures sont restées centralisées au niveau de secrétariat d'État chargé de l'eau. Tout ce qui est délimitation, par exemple, c'est du ressort du secrétariat d'État chargé de l'eau. Pour la police de l'eau,
Avant qu'on arrive à la police de l'eau, je vais juste faire un point parce qu'on va arriver à plusieurs choses, parce que c'est ça qui nous intéresse. Éléments de ressources en eau qui sont les barrages, qui sont ces ouvrages qui nous permettent de retenir l'eau. Malheureusement, on n'en retient pas assez, on aimerait bien retenir plus, parce que c'est vrai que, alors vous allez me confirmer ce chiffre, mais ça on l'avait vu la dernière fois lors de la journée mondiale de l'eau, je pense que de toute l'eau qui tombe, on en perd plus des deux tiers par évaporation, et après, c'est ça, juste confirmez-moi. Hein.
Les chiffres, ça change parce que d'une année à l'autre,
donc on ne peut pas. La période aussi.
Justement, donc on ne peut pas dire
s'il
deux tiers ou un tiers.
Ça,
absolument.
Voilà,
mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Maroc, on a quand même le potentiel en ressources en eau, c'est 22 milliards de mètres cubes. Dont 18 milliards sous forme de ressources en eau superficielles et 4 milliards sous forme de ressources en eau souterraines.
D'accord.
Donc des 18 milliards de ressources en eau superficielles, on stocke au niveau de barrages, qui est actuellement au Maroc, on compte à peu près 145 grands barrages, à peu près 17,5 milliards de mètres cubes. Donc quand même une capacité de stockage assez importante. Et ça, bien entendu, tout le monde le connaît, c'est grâce à la politique prévoyante du feu.
C'est la politique des grands barrages.
Voilà,
de Hassan II,
voilà, donc qui a donné ses fruits aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, il y a eu comme un mouvement des écolos qui critiquaient ces barrages. Donc ça a duré quelques années, mais actuellement, personne ne peut revenir sur cette idée, sachant l'impact positif.
Il faut se rappeler, si on revient 20 ans ou 30 ans en arrière,
les années 80.
Les années 80, les sécheresses, c'était dramatique.
C'était dramatique. Si on n'avait pas les barrages, ça aurait été vraiment un péril pour le Maroc. Donc actuellement, on continue à avoir ce rôle positif et cet impact positif des barrages. Et d'ailleurs, on continue sur la politique des constructions de barrages. Actuellement, on construit à peu près 4 à 5 grands barrages par an à travers le Maroc. C'est vrai qu'on n'en stocke pas assez parce que, vous le savez très bien, ces dernières années, c'est le changement climatique qui affecte, je dirais, les apports en eau naturels d'une manière générale. Et donc, les changements climatiques, ça se traduit par des phénomènes extrêmes. Donc, soit des années, des périodes de sécheresse, soit carrément des périodes des inondations. Et donc là, lorsqu'on a des inondations, donc c'est des apports exceptionnés. Donc, on n'arrive pas à stocker le maximum.
C'est la question que je pose à chaque fois parce que pendant la COP22, et je me rappelle très bien, il y a beaucoup d'experts qui m'ont marqué. On était restés pendant deux semaines à la COP22. J'avais eu des experts du GIEC sur le plateau, des climatologues marocains. Faut encore souligner qu'on a des climatologues marocains qui sont au sein du GIEC.
Absolument,
dans la communauté internationale. Faut le rappeler encore une fois. Et il nous avait dit sur cette antenne, pendant la COP22, vous savez, après, il y a plusieurs théories, mais vous savez, chez les climatologues, ils m'ont dit, vous savez, les changements climatiques, bien sûr, sont bien réels, mais ils seront en faveur du Maroc quand on parle de quantité de pluviométrie. Est-ce que ça se vérifie ? Moi, j'ai l'impression, encore une fois, en perception, que ça se vérifie, tout ce qui est dit. Par contre, c'est extrêmement concentré sur le temps, ce n'est pas réparti. Est-ce qu'en volume, est-ce qu'il peut plus qu'avant ? Est-ce qu'on peut constater ça ? Je parle bien en volume.
Donc, ce que j'ai dit, c'est les phénomènes extrêmes. Oui. Soit des pluies exceptionnelles, soit des sécheresses également exceptionnelles.
Cette année, exceptionnelle ? Vous considérez qu'elle est exceptionnelle ou pas ?
Pour les mois de mars et avril, c'est exceptionnel. Oui. Mais pour la durée de septembre jusqu'à avril, c'est tout à fait moyen, voire même déficitaire dans certaines zones. Par contre, pour les prévisions météorologiques, donc, la plupart des modèles à l'échelle internationale, ils prévoient les résultats, c'est que la zone méditerranéenne dont le Maroc fait partie, c'est une zone qui est critique.
Oui.
Donc, il va connaître une réduction de la pluviométrie qui peut atteindre, selon certains modèles, jusqu'à 30 à 40% de déficit d'ici l'horizon 2050. Et donc, le Maroc se situe dans cette zone de Méditerranée qui est quand même assez... qui va subir le plus d'impact négatif des changements climatiques, conjugué, comme j'ai dit, à la température qui est élevée.
Oui.
Et donc là, ça interpelle une gestion, avec plus de prudence, avec plus de rigueur en matière de gestion des ressources en eau.
Bon. Alors... là, on a parlé des barrages. Sur les nappes phréatiques et sur tous ces retenues naturelles, que ce soit les lacs, etc., est-ce que on est bon là aujourd'hui ? Et surtout, comment on les gère ?
C'est madame qui doit.
Allez-y.
Oui, donc la gestion des ressources en eau au Maroc, comme vous le savez, le Maroc a opté pour une gestion décentralisée. Et donc c'était à travers la loi de 1995 que le Maroc a, dans la loi sur l'eau la loi 1095, qu'il a quand même inscrit la création des agences de bassins hydrauliques comme établissement public qui est chargé de la gestion et de la préservation des ressources en eau à l'échelle du territoire. Donc c'est un bassin versant, hydrauliquement indépendant. Et donc c'est un choix qui a été fait. Et d'ailleurs qui est fait par les grands pays qui gèrent bien les ressources en eau. La gestion des ressources en eau au Maroc, elle a passé par plusieurs étapes. Donc au début, dans les années 1914-1920, donc c'était une gestion, sectorielle.
Oui.
Donc après, dans les années 80-90, donc il y a la notion de la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, ce qu'on appelle l'AGIR.
Mm-hmm.
Et donc intégrée, c'est intégrée à deux niveaux. Tout d'abord, intégrée au niveau de l'espace. Donc c'est entre l'amont, l'aval, les zones montagneuses, les zones, la plaine. Donc c'est une gestion dans l'espace en entier avec tout le, ce qu'on interpelle en termes de solidarité entre l'amont et l'aval. Et puis le deuxième niveau d'intégrer, c'est intégrer avec les autres partenaires. Parce que le secteur de l'eau, c'est quand même transverse. Il y a plusieurs acteurs dans le secteur de l'eau. Il n'y a pas que le secrétariat d'État chargé de l'eau. Donc tout secteur productif est là quand même un rôle à jouer au niveau de la gestion des ressources en eau. Et donc la gestion intégrée, il vise également de pouvoir chercher le consensus en matière de gestion et de préservation des ressources en eau. Après, depuis les années 2000, donc on commence à parler non pas uniquement de l'agir, gestion intégrée, mais gestion intégrée et durable des ressources en eau. Et ça, c'est très important. Pourquoi durable ? Parce qu'on s'est aperçu quand même que les ressources en eau, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare. Le besoin, il devient de plus en plus important. Et donc là, on est quand même interpellé. On est là, il faut chercher toutes les manières de gestion possibles pour pouvoir préserver, gérer durablement ces ressources en eau pour pouvoir accompagner le développement du pays et pour pouvoir garantir la ressource en eau pour les générations futures.
Alors justement, ça nous permettra de savoir et de parler de cette police de l'eau. Comment sont gérées justement ces nappes phréatiques ? Parce qu'à chaque fois, on a des questions et là, les questions commencent à arriver. Et c'est toujours les mêmes par rapport à la, notamment à la région de Marrakech où on creuse des puits, on a énormément d'exploitations, que ce soit des oliviers. Il y a également des questions sur ce nouveau type d'agriculture avec la pastèque qui est extrêmement aquavore, on parle comme ça, voilà, aquavore, aquaphage, je sais pas comment on dit, mais en tout cas qui consomme énormément d'eau. Et on voit des pastèques en ce moment, j'ai jamais vu des pastèques aussi tôt dans la saison.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 10h37, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On parle de l'eau aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou à réagir sur la page Facebook des experts. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, Nazia Chkoroni, vous êtes chef de la division gestion du domaine public hydraulique au sein du secrétariat chargé de l'eau. Et avec moi, Samira Al-Hawad, directrice de l'agence du bassin hydraulique du SBOU. Merci mesdames, encore une fois, d'être avec nous aujourd'hui. Alors on était resté tout à l'heure sur cette question. Alors j'ai trois questions sur la page Facebook, mais qui reviennent un peu au même. C'est comment est gérée et dans quel état est la nappe phréatique au niveau de Marrakech, et surtout comment c'est géré. Alors avant qu'on réponde à cette question, on va justement parler de la police de l'eau, et c'est ça qui est important, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas encore qu'il y a une police de l'eau. Hein, elle existe. Il y a combien de gens dans cette police de l'eau, et surtout, où est-ce qu'elle agit ? Comment on peut la contacter ? Est-ce qu'il y a déjà eu des PV, des poursuites qui ont été opérées par cette police ?
Tout à fait. Ce que vous dites, Monsieur Tidlaoui, pour une meilleure gouvernance, il faut d'abord contrôler.
Oui.
Et un contrôle rigoureux.
Ah oui.
on peut y arriver. Alors, sur le plan juridique, la loi 3615 a chargé la police de l'eau de contrôler, de constater et de verbaliser toutes les infractions qui sont commises aux dispositions de cette loi et ces textes d'application.
C'est quoi les infractions ?
Attends, les infractions, il y en a plusieurs.
Parce que les gens qui nous écoutent, c'est quoi une infraction ? Parce que moi,
l'infraction
j'en vois tous les jours.
Toutes les par exemple, un creusement sans autorisation,
c'est
une infraction.
Ça, c'est logique.
Un déversement d'eau usée sans autorisation, c'est une infraction. Établir réaliser une digue ou un barrage sans autorisation ou concession, c'est une infraction. En fait, de toute façon, la loi, il contient...
Construire sur du domaine hydraulique aussi.
Du domaine hydraulique. Bien sûr.
Venez, je vais vous montrer.
Alors, au niveau de la loi sur l'eau, donc les infractions, elles sont bien citées.
Oui.
Donc, c'est d'abord le creusement sans autorisation, c'est le prélèvement d'eau sans autorisation. Prélèvement soit des eaux souterraines ou des eaux superficielles, donc c'est le prélèvement des cours d'eau, des sources. Il y a l'empiètement sur le domaine public hydraulique, donc c'est les gens qui empiètent, qui construisent, qui utilisent des terrains qui appartiennent au domaine public hydraulique. Et il y a tout ce qui est extraction des matériaux de construction du domaine public hydraulique. Donc là également, il faut une autorisation.
Et bien déversement entendu, des remblais, de construction
au niveau du domaine public hydraulique.
Venez avec moi, vous avez quelque chose à faire cet après-midi, je vais vous emmener voir des trucs.
C'est très bien, est confronté à la réalité.
Allez voir du côté de Darboisa,
Et puis l'autre infraction, c'est le rejet des eaux polluées au niveau du domaine public hydraulique, dans les cours d'eau.
Les espèces de phénomènes que j'ai jamais compris, mais qu'on peut comprendre, où les gens lavent leur voiture, ça aussi c'est sur la route de Darboisa, il y a une espèce de daïa, et puis les gens viennent, et puis c'est une attraction. Et puis les gens lavent leur voiture dans cette daïa. C'est une horreur écologique monumentale, mais ça se fait depuis des années et des années et des années. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ouais, voilà. Moi, appelez-moi la police de l'eau. Moi, je veux bien leur montrer, savoir comment la contacter. On reviendra, on a Nicolas au téléphone. Mmh. Ensuite, on reviendra sur la police de l'eau. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tadlaoui. C'est monsieur Nicolas de Mohamedia, comme d'habitude.
Oui, oui, bah.
On a, sur la loi 3615, je voulais revenir. Est-ce que les sociétés vont être verbalisées à un moment ou à un autre, puisque la loi leur stipule qu'avant la fin d'année 2018, ils doivent se mettre en conformité avec les rejets. Ça, c'est la première chose.
Ouais.
Et la deuxième chose, j'attire aussi votre attention que comme les industriels connaissent cette loi, commencent à la connaître, et que vous savez qu'il y a certains industriels qui pompent dans la nappe phréatique, et pour éviter de polluer au niveau des rejets et d'être conformes, renvoient leurs polluants dans la nappe phréatique. Et ça, c'est vraiment une horreur.
Attendez, voilà. J'ai pas compris. Alors,
ils prélèvent dans
non, mais alors, Nicolas, s'il vous plaît, enlevez votre haut-parleur ou éteignez la radio, parce qu'il y a un écho, et c'est assez gênant. Non, si vous pouviez le faire. Voilà. Mmh. Vous prenez votre téléphone à l'oreille. En espérant que vous ne conduisez pas.
Ce sera mieux.
Oui, c'est mieux. Merci. Alors, voilà. J'ai pas compris. Vous me dites, pour éviter... réexpliquez-moi, parce que j'ai mal compris. Là.
Alors, en fait, pour la loi 3615 stipule qu'on doit se mettre, tout industriel, oui, ou consortium, ou hôtel, doivent se mettre en conformité avec les régies qui les gèrent sur les rejets qu'ils ont. Il y a certains industriels, pour contourner un petit peu cette loi, pompent dans la nappe phréatique,
oui,
et renvoient pratiquement dans le même circuit leur eau polluée dans la nappe, plutôt que de les mettre en rejet parce qu'ils savent qu'ils vont être verbalisés.
D'accord.
Voilà, ou alors font des conduites et directement dans la nature au lieu de faire ça.
Et ça, donc, c'est pas contrôlé.
Et ma question est la suivante. Où est-ce qu'on peut téléphoner, parce qu'on a vu les beaux 4x4 se faire immatriculer avec police de l'eau,
ouais,
mais il n'y a pas de numéro de téléphone pour pouvoir les contacter.
C'est vrai.
Alors, avant de répondre à M. Nicolas, je tiens à rappeler qu'il y a la police de l'eau, mais aussi il y a les officiers de la police judiciaire, oui, qui font aussi le contrôle et verbalisent aussi les infractions commises au domaine public hydraulique. Concernant la conformité, l'administration a accordé un délai de grâce.
Mmh. Qui est
C'était depuis
2015 depuis jusqu'à 2018.
2018. D'accord. Alors vraiment,
donc c'était cette année, ça finit.
Oui. Ça finit le 1er janvier. On rentre dans la mise en œuvre et la mise en vigueur des valeurs limites de rejet qui ont été publiées.
Mm-hmm.
Et on doit appliquer le principe pollueur-payeur.
Parce que jusqu'à présent, depuis ce que Nicolas nous a dit, et pour que les gens qui nous écoutent comprennent, parce que faut pas. Alors aujourd'hui, il y a une loi qui impose aux industriels il y a des normes.
De conformer des normes.
C'est quoi concrètement?
C'est les normes de rejet.
C'est-à-dire
à ne pas dépasser. Des normes, peut-être voilà. Madame El Hawet, au niveau technique, mais vous permettez que je termine. La loi 1095, qui était précédente à la loi 3615, mm-hmm, il a mis et instauré le principe pollueur-payeur, mais il n'a jamais été respecté surtout par les industriels,
oui,
il faut le dire.
Comme beaucoup de lois, encore une loi pas appliquée.
Avec...
On commence à avoir l'habitude, c'est dramatique.
Avec... plusieurs étapes, l'administration a accordé un délai de grâce pour que les sociétés se conforment à cette réglementation. Maintenant, les arrêtés des valeurs limites sont là, la procédure elle est là. Je pense que maintenant il faut qu'elle contribue. C'est une contribution à la préservation de la ressource. C'est pas question de seulement de paiement de redevances, mais c'est vraiment ça contribue à préserver, à économiser de l'eau.
Oui, juste pour compléter, c'est que la loi 1095, elle a parlé des normes de rejet pour les industriels.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque activité qui génère des eaux usées, mm-hmm, ces eaux usées doivent respecter des normes pour être rejetées au milieu naturel. Donc là, c'est pour la préservation du milieu naturel en général.
C'est quoi? C'est des particules à l'intérieur?
Justement,
c'est
en termes de paramètres
quoi,
de pollution.
Il faut filtrer. J'imagine, c'est toujours une question d'argent. Donc, respect de loi.
Alors, il y a des valeurs limites.
Excusez-moi, juste pour comprendre.
Oui.
C'est-à-dire qu'on on impose aux industriels donc de mettre en place des systèmes de traitement, d'épuration, etc. Et ça, ça coûte de l'argent, j'imagine, bien évidemment.
Justement, ouais. Justement, donc les normes, c'est effectivement c'est des paramètres, des seuils de paramètres à ne pas dépasser. Et donc, pour se conformer à ces normes, il faut tout absolument mettre en place un système de traitement. Et donc là, les normes sont élaborées sur la base, je dirais, du procédé, de la nature de la pollution, et puis de la technologie disponible en matière de traitement. Donc, c'est pas des normes qu'on lance comme ça des chiffres au hasard, mais sont bien calculées pour que les gens, les industriels, aient la capacité surtout technique pour se conformer à ces normes. Donc, le tout, ça se convertit en termes d'investissement, en termes de montants et de besoins financiers. Donc, le cumul que le Maroc a enregistré en matière de rejet sans contrôle, sans normes, c'est énorme. C'est depuis l'industrialisation, elle a commencé depuis, je dirais, plus de 100 ans au Maroc. Et donc, là, il y a un cumul qu'on ne peut pas le résorber en une année. Et c'est pourquoi, les décideurs ont opté pour une durée de grâce qui a duré de 2015, pardon. qui a duré 2015, la date de la sortie des normes, jusqu'à 2018.
Jusqu'à fin 2018.
Voilà, jusqu'à début 2018.
C'est-à-dire, vous me dites 1er janvier 2019.
Voilà. Non, c'est 1er janvier 2018, elle rentre en vigueur.
Ah, d'accord. Donc, donc il y avait que seulement deux ans.
2015, 2016, 2017, c'est trois ans. C'est trois ans.
D'accord. Donc voilà, là, à donc partir du 1er janvier, normalement, il n'y a plus de...
Oui, absolument.
Normalement.
Alors, à partir de...
Justement, en parallèle, il y a tout l'arsenal, je dirais, de contributions, d'aides, de subventions économiques pour accompagner les industriels à mettre en place ces dispositifs.
Justement, il y avait quoi?
Bah c'est ça, il y a la contribution financière qui peut être accordée à ces industriels pour se conformer et pour que ça soit pour l'épuration, pour la mise en place des installations, etc. Mais à partir du 1er janvier, je pense que c'est clair, la réglementation sera appliquée.
Alors justement, juste pour répondre à Nicolas, comment est-ce qu'on peut appeler la police de l'eau? Qu'est-ce qu'on fait si on constate? Parce que c'est toujours la même chose, encore une fois. Je fais un parallèle, excusez-moi, je fais une parenthèse. Hier, on parler de la police des chantiers, on a besoin de tellement de police, on a l'impression qu'on a besoin de la police pour tout. On a besoin de la police des voisins, on a besoin de la police des chantiers, on a besoin de la police de la construction, on a besoin de la police de l'eau. Mais il y a un moment, on veut essayer de comprendre comment on peut prévenir et surtout que ça soit pris au sérieux et qu'il y ait une action derrière, systématique. Il y a aujourd'hui des mobilisations citoyennes. Je prends là, encore une fois, excusez-moi, l'exemple de Darbouaza, je fais une fixette parce que j'y habite et je pense que les gens qui nous écoutent, tout le monde le sait, mais on peut dupliquer ça sur l'ensemble du royaume. Des mobilisations citoyennes ont fait qu'il y a une Daya qui a été mise en danger une première fois. Ce sont des passionnés, des ornithologues qui ont prévenu le secrétariat d'État. On avait transmis au ministère chargé de l'Environnement. Ensuite, une fois que ça a été sauvé, on arrive il y a quelques semaines où on voit que c'était en cours de titrisation des promoteurs immobiliers sur quelque chose qui dépend du bassin hydraulique. Et à un moment, on se demande, est-ce que vraiment, comment on fait pour que les autorités soutiennent et que les autorités agissent sans qu'on ait besoin à chaque fois que la société civile alerte, parce qu'il y a des choses qui sont à inbayer, encore une fois, on le sait. Là, on est en train de parler du domaine public, où on a toutes les autorités qui voient, qui sont au courant. C'est quand même pas quelque chose de caché, on n'est pas dans des bars clandestins, on est dans des endroits, dans des daïas, dans des endroits qui souffrent et qui, encore une fois, on a parlé de la ressource en eau qui doit être préservée. Au-delà du gaspillage, il y a la pollution et qui, moi je trouve, beaucoup plus criminelle que le gaspillage, parce que avoir de l'eau et qu'on puisse pas utiliser ou alors qu'il soit extrêmement nocif pour l'environnement, je trouve ça encore plus grave que le gaspillage. Mais là, comment on fait pour faire intervenir la police de l'eau? Est-ce qu'elle est en quantité suffisante? Est-ce qu'elle a les prérogatives aussi nécessaires pour agir?
Il a toutes les prérogatives pour agir, bien sûr, parce que c'est un corps qui est institué par une loi. Et pas seulement la loi sur l'eau, mais il y a aussi la loi, le code pénal qui aussi prévoit pas mal de dispositions et de sanctions à l'égard des contrevenants. La police de l'eau, maintenant on compte à peu près 200 agents de police de l'eau. Sur tout le territoire, avec les agences de bassin et les services eau, qui sont des antennes de secrétariat d'État chargé de l'eau, et aussi des agents qui relèvent des services centraux. Qui sont opérationnels maintenant. Et cette loi, ce qui est nouveau dans cette loi, c'est qu'elle a mis des outils nouveaux et des mécanismes pour renforcer et redynamiser cette police. Par exemple, on a maintenant la, on a la tenue, par exemple, ils sont munis d'une tenue unique, uniforme.
Oui, bon, spécifique.
Une uniforme.
Oui,
oui. La carte, ils ont une carte, ils ont un arrêté, ils sont assermentés au tribunal, devant le tribunal. Et maintenant, bon, sur le plan logistique
police,
aussi,
hein, donc,
c'est, oui.
Oui.
Et pour tout ce qui est logistique. Maintenant, on a fait tout pour les pour qu'ils disposent de vos des véhicules avec des logos. Ça, c'est pour, vraiment, c'est pour renforcer un petit peu.
Alors, ça, on est très heureux. Ok. Mais
voilà,
alors,
c'est
résultat.
Pour...
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des PV dressés?
Ah
est-ce
oui,
qu'il
bien
y a eu
sûr. Il n'y a pas seulement
pas des
PV.
Mais aussi
il y a des interventions. Maintenant, il y a pas mal de puits qui ont été fermés par les agences de bassin. Il y a des digues qui ont été démolies. Mm-hmm. Vous parlez de Tensift, même dans la zone d'action de l'agence de bassin de Tensift, il y a une digue qui était vraiment qui mettait en difficulté la circulation et d'un cours d'eau, d'une rivière, et elle a été démolie. Maintenant, elle intervient. Et je ne sais pas si vous avez suivi la journée d'études qu'on avait organisée avec le parquet général.
Oui.
Avec le parquet général, et c'était vraiment une réussite. C'est pour sensibiliser et pour coordonner avec le parquet, avec le corps judiciaire. Et voilà, c'est on travaille, on est vraiment. C'est vraiment, c'est un travail.
Oui.
Excusez-moi, madame la directrice, c'est un travail de profondeur quand même.
Ah ben ça,
un travail
oui,
sur le plan juridique et sur
le
plan
sur le terrain,
opérationnel
encore...
par les agents de bassin.
Donc là, c'est juste pour dire que le contrôle, il existait depuis toujours.
Oui.
Donc même la loi 1095, on parlait de la police de l'eau.
Oui.
Sur le terrain, c'est un peu difficile, parce que le domaine public hydraulique, c'est pas limité dans des zones bien particulières, c'est dispersé dans tout le territoire. Là où on va, on trouve un talvek, Chaba, on trouve un cours d'eau, on trouve une source, je dirais, perchée dans une montagne, donc le domaine public, il est très dispersé. Et donc de pouvoir se concentrer sur un service particulier pour le contrôler, avec les moyens dont il dispose, l'efficacité capacité vraiment elle est à revoir. Et donc là la nouvelle loi sur l'eau 3615, donc c'est il est venu pour renforcer ce cadre de contrôle et donc dire que il y a pas uniquement que les agences de bassin et le secrétariat d'État chargé de l'eau, il doit y avoir l'intervention d'autres intervenants. Et les offices de mise en valeur agricole là également qui gèrent dans leur zone d'action tout ce qui est prélèvement d'eau et qui doivent intervenir dans le contrôle. Il y a également les inspecteurs d'environnement, donc là c'est une brigade spécialement pour tout ce qui est infraction en matière d'environnement. Et donc, ça touche, là encore, les ressources en eau, la qualité, la pollution, etc. Donc, cette, je dirais, réforme de la loi, ça vient pour renforcer le cadre du contrôle, sachant que, dans le temps, donc, on avait suffisamment de ressources en eau, on avait une population assez faible, donc on n'avait pas beaucoup de problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ces dernières années, donc, on a moins de ressources en eau, on a plus, de conflits autour de l'eau, et donc, on doit contrôler, efficacement. Et donc là, également pour la gestion, on ne peut pas gérer ce qu'on ne contrôle pas bien. Et donc là, la nouvelle loi, donc, il a quand même donné plus de moyens à la police de l'eau.
Oui.
On a joué également sur tout ce qui est visuel pour que les gens comprennent dans le cadre de la sensibilisation, pour qu'ils comprennent qu'il y a une police de l'eau. Voilà l'émission, voilà ce qu'il doit faire. Actuellement, juste à titre d'information pour le bassin hydraulique du Sebou, donc c'est la zone depuis Sfro, Fès, Moukines, jusqu'à Kénitra. Donc on a un petit peu élaboré des PV d'infraction qui, en 2015, on a eu que quand même 220 PV d'infraction qui ont été rédigés, envoyés aux tribunaux. En 2016, c'était 280. En 2017, c'était 328. Et actuellement, jusqu'à maintenant, donc début 2018, on compte un peu plus de 30 infractions qu'on a fait. Donc, on a donné les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sur le terrain, pour contrôler le DPH et pour assurer une gestion, je dirais, équitable de la ressource en eau.
Les contraintes sont énormes. On reviendra
juste une précision, si vous permettez. Cette loi, elle a permis et permet aux agents de la police de l'eau de recueillir de la force publique pour les soutenir. Et,
ils savent nager c'est une vraie question.
C'est pas exigé.
J'imagine que oui, pour être policier, il faut savoir nager.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 11h08, c'est la deuxième heure. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que nous parlons de l'eau après toutes les pluies qui sont tombées. On peut se poser la question, est-ce que on est confortable? Comment c'est géré? Est-ce que la police de l'eau agit? On a déjà eu des questions avec cette nouvelle loi sur l'eau qui est rentrée en vigueur depuis quelques années avec des nouvelles dispositions, avec des nouveaux dispositifs, sachant que l'objectif est bien entendu de préserver nos ressources en eau. Nous sommes un pays semi-aride. C'est sur, alors semi-aride en moyenne, parce que si on va au nord, on n'est pas dans un climat semi-aride, mais on a une bonne partie du territoire qui est un climat semi-aride. Samira Al-Hawat est avec nous, directrice de l'agence du bassin hydraulique du Sebou, et Madame Naziha Chkhrouni. Elle ne veut pas que je l'appelle docteur, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes chef de la division gestion du domaine public hydraulique au sein du secrétariat chargé de l'eau. On a Younes au téléphone, c'est bien ça? Bonjour Younes.
Bonjour
Assidi.
Juste en continuation avec...
C'est Younes, je vous apparais tout de suite. Vous êtes en haut-parleur?
Oui. Là, là. Oui.
Oui, bah...
Allô, salam alaikum.
Voilà, c'est mieux. Allez-y.
Là, je prends mon bide. Bonjour, c'est Faisal.
Bonjour, Sidi.
En continuation avec le sujet d'aujourd'hui, et concernant la préservation des ressources en eau.
Oui.
Alors, j'ai une question.
Allez-y.
Tant que la problématique de la ressource, elle dépend de deux choses, la quantité et la qualité de l'eau. Yac.
Oui.
Alors que les gens ne sont pas le volet qualité, mais l'ensemble, je dirais, 95%, c'est un chiffre, les pollueurs, ils sont en milieu urbain.
Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire oui, on va avoir la réponse après.
A priori.
Ce n'est pas sûr.
C'est des zones industrielles.
Oui.
Ou les zones industrielles sont gérées par des concessionnaires, que ce soit des régies ou des gestionnaires délégués, pas notre colonel. Alors, la police de l'eau, il n'intervient pas au niveau des entités, des concessionnaires. Et non, ce sont des agences ou bien des entités qui ont de la redevance de l'eau et de l'assainissement et de l'épuration, alors que ce sont les plus positionnés pour pouvoir appliquer le principe des pollueurs-payeurs ou respecter les normes de rejet. On a dit, c'est une question. Normalement, il y a Brina, la pollution de l'eau, ça me semble ça, les 4 polices.
Alors, la question que je vais poser, merci pour cette question, c'est intéressant. Et je vais poser la question à nos deux expertes aujourd'hui. Qu'est-ce qui pollue le plus? Parce que quand vous avez dit c'est en milieu urbain, moi je vous dis, c'est pas sûr. Parce que si on raisonne comme vous le faites, faut quand même pas oublier que la majeure partie de la consommation de l'eau et de l'utilisation de l'eau dans ce pays, c'est l'agriculture, et que les rejets qui sont faits au niveau de l'agriculture, est-ce qu'on va considérer que c'est de l'eau polluée, si on utilise les pesticides et ce Absolument. Genre de choses? Bah oui, donc si on le prend sur ce volet-là, moi je vous dirais que c'est... On n'est pas un pays, encore une fois, faut le rappeler, on n'est pas un pays industrialisé, ça, c'est ce qu'on voit dans les zones industrielles aux zones de nos villes, mais l'industrie au Maroc, c'est walou par rapport à ce que l'agriculture représente, ce que la pêche représente, etc. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc le plus gros pollueur de l'eau, c'est quoi? C'est vrai que c'est une vraie question, ça?
Oui, effectivement, c'est une question qui a fait l'objet de plusieurs études. Oui, donc oui. Des études au niveau central, au niveau national, au niveau des régions. Et donc là, pour dire que les sources de pollution, donc c'est soit les rejets domestiques, et donc là, c'est ce qui est généré par la consommation humaine.
Oui, mais en quantité, c'est wallow.
En quantité wallow, mais si on multiplie par le nombre d'habitants, donc d'accord. On est quand même 34 millions d'habitants, donc ça se chiffre. Et donc, on est quand même à des volumes d'eau usée assez importantes. On a également la pollution industrielle, et donc qui est générée par certaines activités qui sont très polluantes en termes de concentration, pas en termes de volume. Et donc, ça se chiffre là encore. Et puis, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est la pollution diffuse. Et donc, la pollution diffuse, c'est ce qui n'est pas ponctuel, pas en un point particulier. Et donc, là, on entend par cette pollution, c'est tout ce qui est impact de l'agriculture via l'utilisation des engrais, des produits chimiques, des pesticides, et qui est là qui impacte le plus les ressources en eau souterraine, les nappes phréatiques, etc. Donc actuellement, on dispose de cette classification de la pollution, et pour chaque type de pollution, il y a un programme d'action pour améliorer et pour dépolluer. Donc là, pour la pollution domestique, que là, je peux un petit peu donner certains chiffres, je dirais une moyenne, c'est qu'au niveau national, ça représente à peu près le 4/5 de la pollution en termes de volume et de pollution, parce que quand même, le nombre d'habitants au Maroc, c'est important. Et donc, il y a un programme d'assainissement liquide national. Donc, ouais. C'est un programme qui a quand même apporté des solutions via la mise en place des stations d'épuration au niveau des grandes villes. Et donc là encore, il y a le degré de priorité qui prioritise les plans d'action et les actions sur le terrain. Les grandes villes intérieures qui posent problème de pollution, donc on a la ville de Fès avec plus d'un million d'habitants, il y a la ville de Marrakech également. Donc ces deux villes actuellement, ils sont dotés de stations d'épuration urbaines dans le cadre du programme national d'assainissement liquide. Et il y a les villes côtières qui, dont l'impact sur les ressources en eau est minime parce que le rejet se fait en mer et pas à l'intérieur.
Oui.
Et donc en termes de préservation, ça vient en second lieu. Oui. Par contre, en termes de préservation du milieu naturel, écologie, biodiversité, voilà, donc c'est à notre niveau. Et donc là, tout un effort qui est en train de se mettre en place pour pouvoir dépolluer ce rejet et de pouvoir, non pas uniquement dépolluer pour préserver, mais dépolluer pour réutiliser. Et donc là, s'offrir une ressource en eau qu'on appelle non conventionnelle et qui pourrait satisfaire certains besoins qui ne sont pas très exigeants en termes de qualité, notamment l'irrigation. Et donc, il y a pas mal d'exemples dans ce sens au niveau du Maroc. Comme j'ai dit, les stations actuellement, on dispose d'une soixantaine de stations d'épuration au niveau du Maroc pour les grandes villes et les grands centres urbains. Et il y a un programme qui est en cours réalisé à travers tout le territoire marocain. Pour la partie pollution industrielle, donc là encore, il y a un ciblage en fonction des activités les plus polluantes. Et donc là, les activités les plus polluantes, c'est surtout tout ce qui est agroalimentaire, donc les sucreries, les huileries d'olive, on n'a pas cessé d'en parler. Et donc là, pour dire que le bassin Sebou connaît beaucoup de problèmes avec les huileries d'olive.
Ah oui, pourquoi ?
Parce que c'est une activité qui est très polluante.
Ah oui ?
Ah bon, oui. Il y a les margines qui sont issues des olives et qui sont rejetées comme ça dans les cours d'eau, ça pollue tout le cours d'eau. Et donc là, cette année, on a fait quand même des PV d'infraction en matière...
On se dirait que c'est très écolo,
Il faut rapprocher de la réalité pour dire ce qui est polluant et ce qui ne l'est pas. Cette année, dans l'objectif de l'application des normes de rejet, on a dressé des PV d'infraction pour les huiles d'olive. Au niveau des provinces du Taounet, vous savez très bien que l'huile d'olive, elle est bien connue là-bas, au niveau de Ouezzane, au niveau de Meknès, au niveau de Hajb. Et on a eu quand même gain de cause au niveau des tribunaux avec des pénalités à payer par ces huiles parce qu'ils ne respectent pas les normes de rejet et ils polluent le milieu naturel. Et donc là, il y a toute une panoplie d'actions dans ce sens avec des subventions de l'État pour encourager l'industriel. Parce que le dilemme, c'est pas de dire vous respectez pas la norme, vous polluez, il faut arrêter, il faut fermer l'industrie. Non, c'est pas ça l'objectif pour nous. Donc on a toujours le souci de pouvoir accompagner le développement industriel, le développement économique, tout secteur confondu, avec l'eau qui doit être une locomotive du développement. Et donc là, à chaque fois qu'on a un problème, c'est pas pour dire la loi, il prévoit vraiment l'arrêt, il faut passer aux pénalités, mais plutôt apporter les solutions, les alternatives, encourager, accompagner, pour pouvoir résoudre les problèmes, préserver la ressource, tout en permettant de continuer notre développement économique d'une manière générale.
11h16, on a Jamel au téléphone. Bonjour Jamel. Allô, est-ce qu'on peut avoir Jamel ? Est-ce qu'il y a Jamel ? Non, il n'y a pas Jamel. Merci de me prévenir. 11h16 dans Les Experts, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 au 80 ou la page Facebook des Experts. On parle de l'eau aujourd'hui. N'hésitez pas. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, mais c'est juste compléter ce qui a été dit par Madame Hawat sur l'assainissement, parce que la question aussi, elle était sur l'assainissement. La loi 36-15, il a consacré, c'est la première fois qu'il a consacré un volet sur l'assainissement. Et il a obligé les communes de se doter d'un schéma directeur d'assainissement liquide. Ça, c'est une nouveauté dans la réglementation de l'eau. En plus, aussi, il a mis en place l'autorisation de déversement dans le réseau d'assainissement liquide. C'est vrai qu'il n'y a pas les textes d'application à présent pour définir les autorités qui vont délivrer cette autorisation, mais quand même tout le dispositif il est déjà mis en place. Il y a même aussi des sanctions qui sont un peu relativement dures par rapport à ce qui était avant en matière de, par exemple, de déversement. Il y a des sanctions à l'égard des gens qui déversent dans ce réseau sans autorisation et qui s'élèvent, je pense, à 50 000 dirhams, de 10 000 à 50 000 dirhams.
Ça commence, voilà, ça commence à être un peu plus...
Avec des valeurs limites aussi spécifiques pour les rejets d'assainissement. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment... On ne fait pas la différence entre les rejets dans le domaine naturel, dans le milieu naturel, et le réseau d'assainissement. Maintenant, c'est plus clair parce qu'il y avait pas mal d'ambiguïtés qui ont tardé la mise en place du principe pollueur-payeur.
On a récupéré ces jumelles au téléphone. Voilà. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame.
Bonjour, Sidi. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. On ne parle jamais d'un gros pollueur, très gros pollueur. Je suis désolé, mais je suis obligé d'en parler. Et là, c'est les phosphates. Les dégâts causés à sa fille dans la région de Kala, je dis là, bien sûr, avec les productions, la production de phosphore et autres, ils ont provoqué des dégâts incroyables. Personne n'en a jamais parlé. Et puis, il y a...
Non, ça, c'est pas vrai. Non. On en a déjà parlé.
En tout cas, à ma connaissance.
Bah oui, mais non, il faut pas dire qu'on en a jamais parlé. Ça, c'est pas vrai. Et puis, en plus, je suis pas en train de défendre le groupe OCP. C'est quand même la première, pendant très longtemps, notre première exportation dans le monde. Oui. Mais je sais qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est extrêmement polluant. Vous l'avez, c'est vrai. Hein, ça, c'est, on n'est pas en train de le nier. Mais il y a énormément de choses qui ont été faites en termes de technologie pour pouvoir assurer. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un produit comme le phosphate également de pouvoir assurer ça, mais je vous laisse continuer.
De l'autre côté, il y a une entreprise à Casablanca, j'ai oublié le nom, mais peu importe, elle collecte les huiles usagées de tous les véhicules, automobiles, camions, etc. Pourquoi on n'encourage pas justement ce genre d'entreprise au Maroc? Qui récupère cette huile et qui la retraite et qui la revende pour d'autres fins quoi.
Alors vous parlez, je vais citer le nom de cette entreprise parce que on l'a déjà cité plusieurs fois parce que c'est une entreprise aussi qu'on avait découvert dans Oser l'avenir lorsqu'on parlait d'innovation qui s'appelle Kilimanjaro qui récupère des huiles usées et qui en fait, attendez, ils en font du biocarburant qu'ils exportent à l'étranger et ça c'est énorme. Et moi je suis d'accord avec vous, pourquoi on n'encourage pas plus pourquoi, et puis c'est vrai que ça c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes.
Bon. Voilà, c'est juste pour attirer l'attention sur les dégâts. Merci beaucoup pour votre émission.
Merci à vous, merci beaucoup. Journée. Alors le phosphate, c'est vrai que ça c'est une vraie question.
Je ne vais pas répondre en détail parce que dans le bassin Sebou, on n'a pas d'unité de traitement de phosphate. Mais ce qu'on entend, ce qu'on sait très bien, c'est qu'il y a quand même l'OCP, c'est une entreprise sociétale qui est consciente des problèmes d'environnement, qui a une stratégie pour la protection de l'environnement, non pas seulement pour les sites de la société, mais également pour tout ce qui est aux alentours. On a entendu parler, on a lu à travers les informations que beaucoup de choses ont été faites par l'OCP en termes d'épuration des localités tout autour, en termes de valorisation de l'eau rougée, solide ou liquide. Donc quand même, il y a pas mal de choses qui ont été faites par l'OCP qu'il ne faut pas nier. Comme j'ai dit, il faut toujours allier développement et protection de l'environnement. Donc il ne faut pas être écolo à 1000%, mais plutôt il faut toujours prendre les choses à point de vue réalité.
Non mais surtout qu'on revient de loin. Surtout ça qu'il faut
absolument
dire.
Absolument, il y a un cumul, je dirais, d'une soixantaine d'années, de plus, voire même plus, absolument.
Et donc, on en parlait même.
Qu'il ne faut pas rêver et pouvoir dire qu'on va le résoudre d'une année à l'autre. Donc, il faut du temps. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, il faut encourager, il faut apporter le soutien, il faut accompagner, il faut appuyer, il faut sensibiliser, il faut former. Et donc là, pour atteindre les objectifs et pour continuer, le tracé qu'on s'est déjà fixé. Donc maintenant pour le...
Juste, on n'avait pas répondu tout à l'heure. Une première question sur les... Alors la nappe phréatique à Marrakech, c'est vrai que c'est toujours la question.
Déjà
qui revient.
Pour ces jumelles, donc on a parlé de l'initiative de la récupération des huiles usagées. Donc il y a pas mal d'initiatives là encore au Maroc en termes de valorisation, parce que les déchets, on les voit par ensemble comme étant un déchet inutilisable qui nuit à l'environnement, mais parfois c'est une matière première que si on cherche des technologies de valorisation, on peut en tirer profit à 100%. Donc notamment il y a les huiles usagées. Donc il y a une société qui fait la récupération à travers les grandes stations de service de par le Maroc. Donc c'est un marché qui a été initié, qui porte ses fruits actuellement. Donc c'est sûr que s'il y a des initiatives pareilles, on va les encourager. Donc je dirais le secteur industriel, c'est libre. Donc on attend des investisseurs, des promoteurs dans ce sens pour pouvoir les encourager. Il y a également d'autres initiatives en matière de valorisation des déchets. Donc il y a les déchets plutôt hospitaliers qui posaient d'énormes problèmes. Et donc actuellement, on a une société qui récupère ces traitements, qui pour ne plus être nuisible et donc pouvoir valoriser certains de ces produits. Il y a également une société au niveau de Meknès qui a pu récupérer les rejets des huiles d'olive.
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle les grignons.
Extrêmement polluant.
Voilà, donc la partie solide pour pouvoir, c'est-à-dire les traiter, pouvoir récupérer du biogaz pour un projet d'électrification de la commune, de la ville de Meknès. Donc c'est l'énergie verte. Et donc là, c'est un grand projet qui est actuellement en cours d'être monté, donc dans le cadre d'un partenariat entre des Marocains et des Français. Et donc il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qu'on, bien entendu, on l'encourage avec tous les soutiens les nécessaires financiers et techniques pour pouvoir réussir sur le terrain.
Donc là, je reviens. Hamid au téléphone. Oui. On écoute Hamid. On reviendra après sur Marrakech. Allô.
Allô. Bonjour, c'est Faisal.
Bonjour, c'est Hamid.
Bonjour à vos experts qui sont avec vous dans le studio. Je voudrais quand même vous féliciter pour l'excellence de vos émissions et l'intérêt que le public pourrait en tirer.
C'est gentil, Zidi.
Le problème qui est traité aujourd'hui, celui de l'eau, moi je voudrais poser une question relative au schéma directeur de l'assainissement national.
Oui.
Il y a des efforts énormes que l'administration, que les pouvoirs publics ont fait pour assurer l'assainissement et le traitement des eaux usées. Je me souviens des années 80-90, quand on demandait une station de traitement des eaux usées, ils disent « écoutez, ça coûte cher, on a autre chose à faire ». Mais cette volonté politique est à saluer et à applaudir. Bon, maintenant, la vision de ce schéma directeur, c'est qu'il faut qu'il y ait une vision intégrée. Dans la ville, il n'y a pas que les eaux usées. On sait les traiter, on peut les maîtriser. Mais il y a tout ce qui est chimique et industrie. Et si on ne fait pas, un plan de barrage de ces eaux usées qui doivent être traitées au niveau de la production, le système de traitement biologique qu'on fait pour les eaux usées domestiques sera complètement altéré et par conséquent ne pourra pas produire d'effet sur l'épuration des eaux usées. Et là, l'investissement serait, disons, les stations de traitement seraient qu'un bypass parce que les déchets toxiques vont éliminer la flore microbienne qui est nécessaire pour l'épuration des eaux usées. Voilà.
Merci beaucoup, Sehamid, pour cette question et cette réaction.
Oui. Pour cette question, on sait très bien que Sehamid, c'est un connaisseur.
Oui.
Donc, il a parlé des eaux usées, également de l'interférence avec les rejets industriels. Donc, effectivement, dans nos grandes villes, donc on a en plus des rejets des eaux usées domestiques, il y a des zones industrielles urbaines. Et donc là, ces zones industrielles qui parfois comprennent des industries des plus polluantes à des industries simples. Et donc, ça pose problème. Et donc, dans le cadre des études des schémas directeurs d'assainissement des villes, donc on s'attaque à cette problématique. Et donc, il y a un volet de dépollution, d'études dépollution industrielle qui accompagne la mise en place des stations d'épuration urbaine. Et donc là, pour définir quelles sont les industries qui sont dans les rejets sont similaires aux rejets domestiques, qui peuvent être acceptés par le système de traitement adopté, et qui sont les unités industrielles qui ne le sont pas et qui doivent impérativement avoir soit un pré-traitement au niveau de leur site, soit carrément un traitement complet, indépendant de la station d'épuration de la ville. Et donc là, on a des exemples dans ce sens, dont notamment je parle de la ville de Fès, parce que la ville de Fès, il contient des zones industrielles à l'intérieur de la ville. Et donc, il y a un programme de dépollution industrielle pour Fès qui a, accompagner la mise en place de la station d'épuration. Il y a eu des pré-traitements et des stations de traitement carrément au niveau de la ville, au niveau des unités industrielles les plus polluantes, pour pouvoir par la suite rejeter des eaux usées qui peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne peuvent pas nuire, au bon fonctionnement du traitement biologique qui est opté par la ville de Fès. Donc là, c'est un volet qui est pris en considération dans les études. Dans scolarisation, c'est sûr que bon, parfois il y a un décalage qui fait que qu'on a quand même des impacts sur la station d'épuration avant que tout le processus de dépollution industrielle ne soit mis en place. Et dans cet objectif, qu'il y a eu quand même un consensus entre les différents intervenants, notamment le secrétariat d'État chargé de l'eau, le secrétariat d'État chargé du développement durable, les agences de bassin, les exploitants, bien les gestionnaires de réseaux d'assainissement, pour pouvoir aider et accompagner les industriels pour par la mise en place des études techniques et par également contribuer au financement et à l'investissement de ces pré-traitements pour garantir par la suite le bon résultat des stations d'épuration à Laval.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 11h40, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, on parle de l'eau. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Avec moi sur le plateau, Samira Al-Hawat, directrice de l'agence du bassin hydraulique du Sbou, et Madame Nazira Chokoloni, chef de la division gestion du domaine public hydraulique au sein du secrétariat d'État chargé de l'eau. On était en train de parler de Marrakech parce que c'est une question qui est posée, et souvent quand on parle de l'eau, on a parlé de la police de l'eau, on a parlé de tout ce qui était mis en place pour éviter la pollution, la préservation des ressources en eau, que ce soit les eaux de surface, les retenues, bref, peu importe, et la nappe phréatique. Et Marrakech est une région très particulière, bien évidemment, où on se pose tous des questions. C'est une oasis, hein, faut pas oublier, avec de l'eau souterraine, avec qui est alimentée aussi par les glaciers environnants. Donc, et là, la vraie question qui se pose, c'est, un, où en est la nappe phréatique à Marrakech? Il y a quelques semaines, le jour de la journée mondiale de l'eau, on a déjà vu des chiffres avec les experts qui étaient sur le plateau, qui étaient quand même assez, on va dire, assez alarmants. Hein, où il fallait creuser très, 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 très profond pour aller chercher de l'eau aujourd'hui à Marrakech. Il y a 11 golfs à Marrakech. On est dans un... On va pas se plaindre qu'il y ait des golfs parce que c'est une manne touristique qui est importante au niveau du royaume dans sa généralité. Mais par contre, on peut se poser la question à Marrakech aujourd'hui. Ça, c'est la question que tout le monde se pose, sur comment est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à en faire dans une région comme celle-ci, et ne pas on va dire privilégier les zones côtières ou peut-être qui ont plus d'eau, où on peut utiliser de l'eau de mer, parce que maintenant il y a beaucoup de techniques, alors dessalement, mais il y a aussi de techniques pour les golfs, pour arroser il y a des variétés de gazon qu'on peut arroser avec de l'eau de mer. Où en est la nappe phréatique à Marrakech aujourd'hui?
Oui, donc les ressources en eau souterraine, notamment les nappes phréatiques, ces dernières années, ils connaissent quand même une surexploitation. Oui. Donc là, c'est un fait qui est constaté. Et donc, ça vient de plusieurs facteurs conjugués. Donc, il y a tout d'abord les années de sécheresse. Et donc là, il n'y a plus de ressources en eau superficielle à proximité. Donc les gens ils cherchent l'eau souterraine à proximité. Et un autre facteur, que c'est une ressource en eau qui est facilement accessible. Donc chacun dans son parcelle, il peut creuser, avoir de la ressource très proche. Et il y a également, pour la région de Marrakech, donc il y a quand même un contexte, je dirais, hydrologique assez particulier. Donc c'est parmi les zones sud du Maroc qui connaissent moins de pluviométrie par rapport aux zones nord. Et donc il y a tous ces facteurs-là qui converge vers une baisse des niveaux au niveau des nappes phréatiques partout, y compris la zone de Marrakech. Donc pour un petit peu contourner cette problématique, il y a la loi sur l'eau qui a apporté là encore un concept assez innovant en matière de gestion durable des ressources en eau souterraine. C'est les contrats de gestion participative, ce qu'on appelle nous tout court les contrats de nappe.
Oui.
Et donc là, c'est des concepts, des mécanismes et des outils de gestion intégrés des ressources en eau avec en participation avec tous les acteurs liés à chaque nappe particulière. Pour tout d'abord faire un constat partagé. Donc voilà, la situation elle est alarmante. Si on ne fait rien, voilà à quoi on peut être confronté. Carrément un dessèchement de la nappe et donc un péril de toute la zone, de toutes les activités, y compris agricoles, touristiques, urbaines. Donc partant de ce diagnostic, donc voilà l'objectif qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on cherche de retourner à l'équilibre carrément de la nappe, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, ou bien c'est qu'on va plus ou moins tolérer certains déficits et pouvoir gérer d'une manière convenable la ressource en eau. Donc là également, on se met d'accord sur l'objectif et puis un plan d'action pour atteindre l'objectif. Et le contrat de nappe, c'est en quelque sorte la mutualisation des moyens de tous les intervenants, de tous les acteurs pour pouvoir atteindre cet objectif financièrement, techniquement, mobilisation et tout. Et donc là, ça englobe des actions de soutien et de renfort des ressources en eau sur place, notamment via des systèmes de transfert de l'extérieur de la zone, c'est-à-dire si un barrage dans les environs, on peut prévoir des systèmes de transfert pour alimenter la zone à partir des eaux superficielles d'ailleurs. Il y a également le renforcement du contrôle, et ça, c'est très important. Donc, ça rejoint l'idée de la police de l'eau, avec l'objectif ne pas se limiter à ces agents assermentés de la police de l'eau pour faire le travail, mais plutôt atteindre dans un futur ultime un autocontrôle, c'est-à-dire chacun se contrôle lui-même, oui, et chacun contrôle son voisin et pouvoir travailler ensemble pour atteindre l'objectif.
C'est le but.
Voilà,
oui.
Donc c'est pour nous, c'est l'objectif ultime à pouvoir à atteindre dans le futur.
Donc, il y a quelque chose, Madame Chkolani ?
Oui, mais à côté de tout ce dispositif, Madame Al-Hawat a déjà bien exposé, il y a une stratégie de préservation des ressources en eau souterraine,
oui,
et qui sont vraiment une réserve stratégique pour le Maroc et pour les générations futures. Alors il y a plusieurs outils à la main, parce que la police de l'eau, c'est vrai, on a la police de l'eau, le contrôle, mais avant il y a d'autres actions qu'on peut mener. Par exemple, il y a le creusement. Maintenant, tout creusement, quelle que soit la profondeur, il est assujetti à une autorisation. Mm-hmm. Et c'était pas le cas avant. Il y a aussi.
Parce
il
que
y a
là,
aussi...
quand on creuse, c'est ce qu'on voit, parce qu'il faut ces camions, je sais pas comment ça s'appelle, là, ces espèces de camions qu'on voit. Là,
maintenant, maintenant, pour les forages, ils sont obligés d'avoir un permis de foreur, ce qu'on appelle maintenant le permis de foreur. Et ça, c'est...
Les gens qui ont les camions, aujourd'hui, sont régulés.
Les sociétés qui forent,
elles sont régulées.
Ils doivent avoir un permis
de foreur.
Donc c'est en train de mettre,
c'est
de se mettre
c'est
en place.
C'est un agrément ou c'est un permis?
Juste d'agrément, c'est sorte d'agrément, mais avec toute société qui n'a pas les compétences requises pour faire des forages, elle peut pas les faire, elle sera arrêtée. Il y a un autre outil, c'est l'établissement des périmètres, par exemple, de sauvegarde autour des nappes qui sont menacées d'exploitation.
Oui.
Il y a des restrictions qui seront mises en place.
Et ça, on les connaît, une cartographie claire aujourd'hui,
mais
on sait
sûr,
exactement
oui,
où c'est pas
oui,
où
oui,
vous
oui,
situez,
on est en train maintenant, oui. Et il y a la nappe dont vous parlez, la nappe de Tensift, mm-hmm, figure parmi ces nappes qui sont menacées d'exploitation. Mais bien sûr, il y a toute, madame, mm-hmm, elle a parlé de contrat de nappe, et à la fin, c'est la police vient à la fin, c'est
oui, absolument,
après des sanctions administratives.
Oui. Et c'est juste pour dire que pour les périmètres, donc on parle même de périmètres d'interdiction.
Bien
donc
sûr.
Là, ça se rapporte aux cas les plus déficitaires et les plus spécifiques, de pouvoir intégrer carrément tout creusement de puits au niveau de ces zones. En plus des périmètres de sauvegarde, donc là c'est réglementé,
des restrictions,
voilà,
qui sont imposées.
Des restrictions, voilà.
Et donc on a Amel au téléphone, on prend Amel, on continuera là-dessus.
D'accord.
Bonjour Amel.
Allô, bonjour Monsieur Tadlaoui.
Bonjour.
Je suis très honorée d'abord de participer dans votre émission.
Merci
et
à vous.
Donc, mon intervention, l'eau, la problématique de l'eau, elle touche aussi l'inondation. Donc, ma question, elle concerne Madame la directrice de l'agence du bassin hydraulique Tsbo. Pour la ville de Meknès, elle est dotée d'une étude de protection de la ville contre toute inondation. Donc, cette étude, elle concerne la réalisation d'ouvrages pour protéger la ville contre toute inondation. Ma question, surtout, elle est un peu directe. Je me demande pourquoi cette étude n'a pas encore été mise en œuvre, surtout dans sa partie sud, qui a été ouverte à l'urbanisation par le biais de dérogation, et dont les promoteurs concernés ont déjà des engagements pour contribuer à la réalisation de ces ouvrages. Donc, il faudrait bien savoir quelles sont les contraintes qui sont posées pour que cette étude n'a pas encore vu le jour.
OK.
Oui, donc je vous remercie pour la question. Donc effectivement, la lutte contre les inondations, c'est parmi les missions des agences de bassin hydraulique. À l'échelle nationale, on dispose d'un plan national de lutte contre les inondations. Et au niveau des bassins versants, donc on dispose également des plans directeurs de protection contre les inondations. Et donc là, on les fait des études qu'on les fait au cas par cas, c'est-à-dire pour chaque ville, parce que c'est des cas particuliers. Donc pour la ville de Meknès, on a développé un schéma directeur de protection de la ville de Meknès contre les inondations. Je sais très bien que vous connaissez le terrain, parce que la zone sud qui vient du côté de l'Hajib, donc c'est la zone qui présente une menace, une réelle menace des inondations de la ville de Meknès. Et donc là, on a prévu carrément un canal de contournement des eaux de ruissellement qui vient de cette zone pour contourner la ville et pour rejeter à l'aval de la ville. Donc c'est un projet qui coûte à peu près 350 millions dirhams. Donc en plus des études qui sont à la charge de l'agence, donc la réalisation, elle est bien mentionnée dans la loi, qui se fait en partenariat avec tous les acteurs. Et donc là, on a proposé une convention de partenariat qui lie l'agence, le ministère de l'Intérieur, les autorités locales, les collectivités territoriales, tous les intervenants pour se mettre d'accord sur un schéma financier et sur un montage financier pour pouvoir mettre en place ce programme d'action. Le coût, il est assez élevé. Les collectivités territoriales n'ont pas les moyens souvent, je dirais, suffisants pour pouvoir accompagner ce projet. Et donc là, on a opté pour une réalisation progressive. Et donc là, un premier tronçon actuellement, il est en cours de réalisation pour un montant total d'à peu près 20 millions dirhams qui concerne l'Oued Boufkrane. Oui. Et donc là, c'est une première initiative du secrétariat d'État chargé de l'eau et de l'agence de bassin en attendant la mobilisation des fonds nécessaires par les autres partenaires. Et donc là, c'est la philosophie de la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service unique qui protège toute la population, mais il y a quand même un travail partenarial, une contribution de chacun, une mutualisation des moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Pour les promoteurs, donc là, les zones qui n'étaient pas urbanisées, qui sont actuellement ouvertes à l'urbanisation, le principe qu'on a adopté, c'est que chacun doit se protéger. Et donc, pour chaque nouveau projet de lotissement, il y a des études nécessaires qui se font pour protéger le lotissement, et donc que l'agence valide et qui définit un plan d'action que le promoteur doit intégrer dans son plan d'action global. Donc, c'est des charges à la charge du promoteur, bien entendu à valider par les services techniques nécessaires pour que les choses soient intégrées dans le schéma global. Et donc, c'est le principe qu'on a opté, et tous les projets actuellement en cours de construction, ils sont validés et approuvés par les services de l'agence sur ce point.
Vous ne m'avez pas répondu sur les golfs. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a les golfs, il y a beaucoup de stations d'épuration qui sont justement développées par les golfs, par les nouveaux golfs. Est-ce que ça suffit à justement compenser tout ce qui est pompé comme eau?
Oui, donc l'effort, je dirais, de l'assainissement d'une manière générale au Maroc, donc il a passé également par différentes étapes. Au début, on avait l'objectif de pouvoir dépolluer et protéger l'environnement. Et donc, il y a eu des normes de rejet qui ont été adoptées pour améliorer les conditions du milieu naturel récepteur. Après, donc sachant la rareté et l'importance et la valeur octroyée à l'eau, donc on s'est migré vers une autre étape, c'est de pouvoir chercher des projets intégrés. Donc, il y a l'épuration, il y a la valorisation. Et la valorisation, c'est à travers la réutilisation. Et donc là, dans les zones...
L'idéal, c'est que ces golfs-là, ils arrosent et que toute l'eau qui est réutilisée soit réutilisée.
Beaucoup plus que ça. Donc, les eaux usées de la ville de Marrakech, par exemple, qui sont traitées dans la station d'épuration de Marrakech, ils sont pompés vers les golfs, parce que la consommation d'eau en eau des golfs, c'est énorme. Et donc là, c'est les eaux usées de la ville qui sont utilisées par les golfeurs pour irriguer les golfs. Et donc là, c'est une valorisation qui est importante, sachant que Marrakech, dans un contexte où on n'a pas suffisamment de ressources en eau locale. Et donc là, c'était une alternative qui a été saluée, qui a été appuyée par les pouvoirs publics. Donc actuellement, les golfs, l'ensemble des golfs, ils irriguent à partir des eaux usées traitées de Marrakech. Un cas également similaire a été développé, et ça fait maintenant 2 ans, pour Dar Salem, pour les golfs de Dar Salem, qui sont irrigués par les eaux usées du centre El Aouda, après traitement, après épuration. Et donc là, c'est, je dirais, une stratégie que le Maroc c'est inscrit avec un plan national de réutilisation des eaux usées que le secrétariat d'État chargé de l'eau il a déjà développé, qu'elle a déjà élaboré. Et donc là, on s'inscrit dans cette, je dirais, dynamique pour pouvoir valoriser tout l'effort de dépollution et de station de traitement dans les usages qui peuvent être convenables.
Alors, j'aime Staffa qui
mais
nous parle.
Il n'y a pas seulement pas seulement les golfs qui sont arrosés par les eaux usées, mais aussi les espaces verts. Par exemple, de Tétouan étendu, qui sont maintenant dans le nord, c'est généralisé à partir des eaux usées traitées.
Nous à Casa, ça pose pas de problème, on n'a pas d'espace vert à arroser, donc au moins c'est réglé. Voilà, c'est peut-être une bonne chose de pas respecter la quantité minimale d'espace vert par habitant qui est préconisée par l'OMS. Bref, ça c'est mon petit pic en passant. J'aime Staffa qui nous parle de la qualité de l'eau, parce que ça aussi c'est important. Mustapha nous dit qu'en est-il de la qualité de l'eau du robinet que consomment régulièrement la majorité des Marocains. On mange l'eau du robinet, bah oui, parce qu'on cuisine avec, on boit l'eau du robinet, qui est impropre à la consommation. Alors c'est ce que dit Mustapha, mais personne n'ose en parler malheureusement. Alors ça c'est une question qu'on vous pose, la qualité de l'eau du robinet.
C'est une bonne qualité, sinon tout le Marocain aurait été malade. c'est pas le cas.
Elle respecte les normes.
Bien sûr, on a quand même un office.
L'OMS, oui.
On a un office national qui est chargé du traitement et de la production d'eau potable. Voilà, l'ONEP, l'ex-ONEP est actuellement l'ONE. Et qui a des normes marocaines en matière de potabilité qui sont parmi les normes les plus sévères à l'échelle internationale. Donc, on ne sait pas quand même se limiter à des normes plus souples, mais on est vraiment posé des normes assez sévères et qui sont respectées par l'ensemble des stations de production d'eau potable à travers le Maroc. Donc, ce qu'on garantit, c'est qu'à la sortie des stations de traitement d'eau potable, donc il y a le respect total des normes, il y a des contrôles, il y a des autocontrôles, il y a des brigades qui font le contrôle de par multiples partenaires, l'agence de bassin, les services de l'hygiène et autres, et donc il y a un respect. Ce qui arrive parfois dans certaines zones, et d'ailleurs c'était des cas qu'on a vécu au niveau de la ville de Fès, de la Médina de la ville de Fès, il y a des réseaux de distribution à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des quartiers qui commencent à devenir vieux et c'est-à-dire qu'il y a des fuites de l'extérieur vers le réseau d'eau potable. Et donc là, ça peut altérer par endroit la qualité de l'eau au robinet. Mais là, ce n'est pas en relation avec la production d'eau potable. Et là, ça demande des interventions pour étanchéifier, pour remplacer parfois des conduites d'eau potable.
J'ai une question extrêmement intéressante, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Et Hassan nous dit, y a-t-il des normes pour les fosses septiques à côté des puits ou alors dans les maisons? Alors ça, non, mais ça, c'est une réalité. Moi, étant confronté à ça, parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui aujourd'hui construisent des grands ensembles, soit de petites maisons, avec des fosses septiques, on va dire, individuelles. Et on se demande vraiment si ça s'est fait dans les règles de l'art. Il suffit d'aller sur les chantiers et de voir. On a l'impression que c'est juste des trous, sans aucune autre, on va dire, il y a quand même des normes pour faire des fosses septiques. Ça se fait pas n'importe comment. Il y a des profondeurs. Il y a des caractéristiques. Je sais pas, il y a même des produits à mettre. Quand on voit à l'étranger, même si c'est une réaction tout à fait naturelle, il faut que ça soit aussi bien séparé, que ça ne puisse pas, on va dire, polluer la nappe. Est-ce qu'il y a des normes pour les fosses septiques ou ça, c'est fait n'importe
bien
comment?
Bien sûr, il y a des normes, il y a des descriptifs pour pouvoir conceptionner une fosse septique. Je dirais pour les projets qui prévoient des fosses septiques dans le cadre des études. On contrôle, on valide, on vérifie est-ce que ces normes sont respectées et surtout pour nous donc on veille à ce qu'il n'y a pas un impact par rapport aux sources non superficielles, c'est-à-dire lorsque la nappe phréatique elle est très proche du sol, c'est qu'on refuse le système des fosses septiques. Lorsqu'il y a des points d'eau qui servent pour l'eau potable groupée des populations, on refuse là encore d'implanter des fosses septiques à côté parce qu'il y a des échanges souterrains entre eux. Donc là il y a des risques qu'on veille toujours, mais parfois ce qui arrive c'est qu'il y a des fosses septiques qui viennent après la mise en place du projet et qui ne sont pas validés, qui ne sont pas examinés. Et donc là, ça pose des problèmes. Et effectivement, on a eu des cas sur le terrain de certaines fosses septiques. On a ordonné la fermeture carrément des fosses.
Merci, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les deux heures sont passées. Oui, c'est passé vite. C'était les experts. Merci d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir de participer à cette émission.
Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent appétit et à demain.
Merci.